Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons lire dans l'évangile de Luc, évangile de Luc au chapitre 15, évangile de Luc au chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset 7. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi. » Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chaque fois que nous parlons de chercher, c'est quelque chose qui est perdu. On ne va pas chercher quelque chose qui n'est pas perdu. On l'a sous la main. Mais lorsqu'on prend l'expression de « chercher », se sentant automatiquement qu'on n'est pas sûr, ou on peut être sûr de la place où il est, mais on doit faire une tentative pour le récupérer. Chercher quelque chose, on cherche les choses de valeur, qui ont une valeur pas toujours marchande, qui ont une valeur tout à fait personnelle bien souvent. On cherche les choses qui ont une valeur à nos propres yeux, peut-être aux yeux des autres aussi, qui n'ont pas forcément une valeur marchande, mais qui ont très certainement une valeur morale, ou une valeur sentimentale, ou une valeur symbolique, ou une valeur richesse. Chercher quelque chose. Quelque chose qui a peut-être aussi une valeur éternelle qui ne périt pas. Or, nous savons très bien que toutes les choses qui existent ici-bas sur la terre, même que nous considérons comme étant de valeur, sont périssables. Sont périssables. Donc, forcément, nous sommes obligés de faire une différence entre les valeurs périssables et les valeurs impérissables. Il y a des choses sur la terre qui peuvent rester des années et des siècles, c'est vrai. Mais ceci n'empêche pas qu'avec le temps, elles se dégradent et que la valeur initiale est dépréciée. Car rien ici-bas sur la terre ne demeure, rien. Il n'y a que les choses qui sont en Dieu, qui sont éternelles. Donc, il y a une mesure de valeur dans les choses. Une clé, par exemple, n'a pas en elle-même une grande valeur. C'est un bout de métal d'une certaine grandeur, certaines toutes petites, d'autres plus grandes. Une clé n'a pas en elle-même une grande valeur. Mais quand elle est perdue, c'est la panique, c'est la catastrophe. On doit briser le verrou. On doit casser la porte. Pourquoi? Cette petite chose qui en elle-même n'a pas de valeur a une valeur quand même. Une valeur à cause de qu'elle donne accès à d'autres choses qui ont une valeur. Là, la combinaison d'un coffre, peut-être que les gens qui sont très riches et qui gardent des valeurs chez eux, des valeurs en titres, en documents, des valeurs en objets, d'or ou d'argent ou de pierres précieuses, ont un coffre chez eux. Ce coffre est construit de telle façon qu'il ne soit pas violable. Il est massif, il est lourd, il est en acier, il est scellé. Mais voilà que vous avez oublié ou perdu la combinaison du coffre. La combinaison du coffre, c'est une chose tout à fait abstraite, c'est pas vrai? On ne peut pas prendre une combinaison d'un coffre dans sa main. Non, c'est une chose abstraite en elle-même. Mais c'est une chose qui a de la valeur, quoi qu'abstraite, quoi qu'on ne puisse la toucher, quoi qu'on ne puisse l'apprécier par son poids, par sa couleur, par sa forme. C'est tout théorique, c'est tout abstrait. Mais ceci ne veut pas dire que il n'y ait pas de valeur. Cette combinaison a une grande valeur. Si vous ne l'avez pas, si vous ne la possédez pas, vous ne pourrez jamais avoir accès à l'intérieur du coffre où il y a des valeurs concrètes. Quand on perd, c'est terrible. C'est terrible. Perdre. Perdre, c'est un nom, un mot que nous n'aimons pas. Le mot « perdre » ou « perdu » n'est pas un mot agréable, loin de là. Ce n'est pas un mot que l'on aime entendre, mais il n'en est pas moins une réalité, puisque ça, c'est dans notre langage et qu'on l'emploie tous les jours. Que de fois j'ai entendu à la maison « j'ai perdu mes clés ». Qui c'est qui a dit ça? J'ai perdu ce papier. J'ai 3 sacs, 4 sacs, il faut un sac avec chaque robe, comme ça, ça va mieux aller ensemble. Mesdames, mais bien sûr, on ne va pas mettre porter un sac noir quand on a mis une tenue claire, ou que sais-je, enfin, peut-être je ne m'y connais pas bien dans ces histoires-là. Mais il faut que le sac soit en harmonie avec la robe et les souliers. Moi, je vois ces dames, je vois que les souliers, ça correspond à... Et comme il y a plusieurs sacs, et qu'il faut un sac pour la tenue qu'on a, voilà, on a oublié dans l'autre sac. On est sorti précipitamment, les pièces d'identité, les pièces de la voiture, et quoi encore? Et on n'est pas sûr quel sac, alors vite, cherchez les sacs, mais ils sont à travers toute la maison. Il y en a un dans la chambre à coucher, il y en a un autre dans l'armoire, il y en a un autre qu'on a laissé au salon, il y en a un autre qui, par hasard, est dans le bureau du mari, il y a... Où est mon sac? Où est mon sac? Alors, chez nous, à la maison, comme on a un domestique qui est avec nous depuis presque plus de 20 ans, il sait toujours où tout, lui. On demande à Moinza, où est le sac? Alors, lui, en général, il a déjà vu. Perdre! On n'aime pas ça, n'est-ce pas? C'est un mot négatif. On n'aime pas perdre. Perdre un match de football, on va... au match pour gagner, c'est pas vrai? Mais il n'y en a toujours qu'un seul qui gagne. Les deux équipes vont pour gagner, mais il y en aura une qui va perdre. C'est pas ça? On n'aime pas perdre. Perdre de l'argent, c'est détestable. Si on fait une mauvaise tractation, un mauvais marché, on va perdre de l'argent. Et il y a encore d'autres façons de perdre qui font mal. Perdre un membre de la famille, on utilise ce langage. Perdre un membre de la famille, c'est tragique. Il était là, il n'est plus là, on ne le verra plus jamais, et on le regrette, et on le pleure. On parle de perdre un membre de la famille. Perdre son travail, ce sont des choses qu'on n'aime pas. Ça arrive tout le temps, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui. Chômage, perturbations de toutes sortes, on perd son emploi. Perdre sa réputation, il y a des gens qui perdent leur réputation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils perdent leur réputation, ils ne tiennent pas leur parole, ils ne tiennent pas leur engagement. Alors qu'on croyait que c'était des gens sûrs, on voit qu'ils ne sont pas sûrs. Ce sont des magouilleurs, ce sont des voleurs, avec une belle apparence. Au bout d'un moment, quand vous avez découvert à vos propres dépens, vous n'avez plus rien à faire avec eux. Pourquoi? Ils ont perdu leur réputation. Plus de réputation, plus de confiance. On leur tourne le dos, on ne veut rien avoir à faire avec eux. Ça, c'est tragique, de perdre sa crédibilité. Tragique. Perdre, c'est toujours quelque chose qui fait mal. On peut continuer sur ce chapitre pendant un bon moment. Nous savons tous ce que veut dire perdre ou perdu. Nous préférons gagner. Alors là, ça va. Gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut faire pour gagner. Nous devons savoir une chose. Nous sommes tous perdus sans exception. Voilà une première vérité que nous devons savoir. Nous sommes tous perdus sans exception. Perdus par le péché. Perdus par la rébellion que nous, dans laquelle nous sommes. Rébellion contre Dieu. Rébellion contre la vérité. Vous mentez, donc vous êtes rebelle à la vérité. Vous volez, donc vous êtes rebelle à l'honnêteté. Rébellion. Ça, c'est la caractéristique de l'homme. Où qu'il soit, quel qu'il soit, rébellion contre Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, etc., etc. Tu tues, tu es dans la rébellion. Tu voles, tu es dans la rébellion. Parce que Dieu a dit, tu ne le feras pas. Alors, tu es donc un rebelle au commandement de Dieu. Le rebelle, c'est celui qui désobéit. Désobéis-toi à quoi? À Dieu, à ses commandements, à sa parole. Tous perdus, tu commets adultère, tu es dans la rébellion, puisque Dieu a dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La désobéissance, le commandement est là, mais on fait et on agit délibérément contre le commandement. Alors, nous sommes des rebelles, alors nous sommes perdus. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Voilà pourquoi. Parce qu'il a vu et il savait que nous étions tous perdus. Ce n'est pas qu'il ne savait pas où on était. Non! Il savait très bien où on était. Ce n'est pas le cas de la personne qui a perdu quelque chose qui ne sait pas où elle est. Dieu savait où nous étions et il est venu nous récupérer de là où nous étions. Mais voulons-nous être récupérés? Jésus est venu dans le monde afin de nous chercher, nous perdus, pour nous sauver. Ici, dans les paraboles de Jésus, nous avons plusieurs paraboles qui parlent, qui nous parlent tout particulièrement de ce principe de perdre et de trouver. Plusieurs paraboles qui nous parlent de ce qui est perdu et de ce qui est retrouvé. Pourquoi retrouver? Parce que quelqu'un a cherché. Si personne ne cherche, personne ne trouve. Si quelqu'un cherche, il y a possibilité de trouver. Et là, nous avons ici dans Luc, au chapitre 15, trois paraboles qui parlent de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils perdu. Dans ces paraboles, tout ramène à un seul mot. Tout se ramène à un seul thème, à ce mot, perdu. Chacune de ces paraboles ont une nuance et un aspect différent que le Seigneur met en relief et que nous allons essayer de découvrir. Une partie ce dimanche, d'autres parties les dimanches qui viennent. En premier lieu, Jésus veut se défendre. Lorsque nous avons lu le début de ce chapitre, nous voyons que Jésus était attaqué. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Je peux imaginer le dédain de ses propres justes religieux qui disent il accueille les pêcheurs. Vous savez, avec la bouche qui descend comme ça. Jésus veut se défendre contre ces accusations portées contre lui parce qu'il reçoit avec bienveillance les péagers, les ramasseurs de taxes qui étaient détestés car ils travaillaient pour le gouvernement romain et ils demandaient un supplément un pourcentage en supplément pour pouvoir se payer eux-mêmes, ce qui était autorisé par le gouvernement romain, et ils ne s'inquiétaient pas du pourcentage supplémentaire qui était demandé, pourvu qu'eux touchent la taxe exigée. Quant au reste, c'était l'affaire du collecteur. Certains exagéraient, et ils prenaient de force les biens des maisons pour payer la taxe. Vous savez ce que c'est? Pas de miséricorde, hein? Beaucoup s'engraissaient ainsi aux dépens du peuple, mais pas tous. Certains étaient honnêtes, peu importe. C'étaient des hommes détestés, qu'on appelait des pécheurs, avec la bouche qui descend comme ça. Jésus recevait ces péagers et ces gens de mauvaise vie, ces prostituées, que les pharisiens et les scribes regardaient du haut de leur dignité et auxquels ils n'adressaient jamais aucune parole. Ces gens, est-il dit, venez à lui pour l'entendre. Qu'est-ce que ceci nous montre? Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de la parole de vie qui sort de sa bouche. Ce n'est pas une parole de jugement que Jésus leur adresse. Ce n'est pas une parole de condamnation qu'il leur adresse. Mais c'est une parole d'espoir, c'est une parole d'amour, c'est une parole de pardon, et c'est une parole de vérité. Il les reçoit, mais il leur dit la vérité. En même temps, il leur apporte le pardon. Les propres justes l'accusent de trop de tolérance, ne comprenant pas qu'il ne garde pas ses distances avec de telles personnes, avec ces gens pécheurs. Dans cette parabole, Dieu est représenté comme étant celui qui cherche activement le perdu pour le sauver. Jésus est mal compris et critiqué. Il est attaqué à cause de ceux qu'il fréquente. Il n'a jamais rejeté les publicains et les pécheurs, Jésus. Il a même mangé avec eux, selon la tradition et le cérémonial religieux de l'époque. Manger avec de telles personnes, avec des pécheurs, était la pire des choses. Dans la tradition rabbinique, très rigide à ce sujet, c'était une chose inacceptable. Les publicains, les péagers, étaient des gens socialement aberrants. C'étaient des pécheurs. Et considérés au-delà de tout, de toute piété, considérés comme irrécupérables. Et quelqu'un qui se respecte ou qui veut être respecté des gens de bien s'éloigne d'eux. Tel était ce que faisaient les pharisiens et les scribes. Les pharisiens, par leur attitude, montraient à la foule clairement qu'un homme est connu, je devrais dire, est respecté à la mesure des gens qu'il fréquente. Si vous fréquentez des pécheurs, donc vous n'êtes pas fréquentable. Voilà ce que ces pharisiens et ces scribes disaient. Des propres justes. Jésus ne se fâche pas lorsqu'il entend une telle chose, mais il répond avec douceur et avec un raisonnement très simple, rempli de bon sens et plein de sagesse. Il dit, voici ce qu'il dit. Quel est l'homme d'entre vous? Première réflexion. Remarquez, il ramène toujours les choses, tout au niveau de l'expérience individuelle, de la vie de tous les jours. Vous voyez? Il les appelle à réfléchir. Réfléchissez maintenant. Je ne vais pas vous donner une théorie abstraite, mais quelque chose que vous faites vous-même. Cette façon de parler, nous la voyons dans bien des endroits dans le Nouveau Testament, dans Luc 14, 5 et 28. Quel est l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après elle, après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Vous faites cela, non? Vous avez perdu une brebis sur votre troupeau de 100 têtes, ou une brebis sur votre troupeau de 200 têtes. Vous laissez les brebis dans l'enclos, dans le désert, et vous partez chercher celle qui est perdue. Quel est le berger parmi vous qui ne va pas faire cela? Jésus les amène à une réflexion sur un plan tout à fait de la vie de tous les jours. Ce n'est pas de la super théologie qu'il enseigne là. Vous dites que ces pécheurs sont perdus. Sûrement qu'un homme perdu est bien plus précieux qu'une brebis et qu'il est nécessaire de la chercher avec urgence, de le chercher avec urgence plutôt qu'une brebis et de le trouver. Et quand vous avez trouvé cet homme perdu, vous avez une grande joie. Voilà l'argument de Jésus. Le Père m'a envoyé pour chercher ce qui était perdu. Là est sa défense devant ses accusateurs propres justes. Jésus a souvent pris comme exemple les bergers. Et il y en avait beaucoup dans le pays. Beaucoup de bergers et avec leurs troupeaux. Et il a souvent tiré des enseignements spirituels profonds de la vie de ces bergers. À cause de leur travail, à cause de leur vigilance, à cause du soin avec lequel ils prennent garde du troupeau, à cause du soin qu'ils donnent aux brebis et aux agneaux, à cause de leur sacrifice même, ils dorment la nuit dans les champs pour veiller sur leur troupeau. Ils dorment d'un œil. Pourquoi? Ils veillent contre les prédateurs. C'est à eux que l'ange a annoncé la venue de l'enfant de Bethléem. Souvenez-vous de cela, aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. Il a dit de lui-même, qu'a-t-il dit de lui-même? Je suis le grand roi qui va dominer le monde. A-t-il dit cela? Non. Je suis celui que tout le monde doit suivre et je vais imposer mon règlement et ma loi à votre nation et au pays du monde et je vais dominer et vous serez tous obligés de me suivre. A-t-il dit cela? Non! Qu'a dit Jésus? Jésus qui est l'incarnation de Dieu, du Dieu créateur qui a créé l'homme et l'univers tout entier. Qu'a-t-il dit? Alors que nous sommes formés de l'argile de la terre et qu'il a soufflé un souffle de vie dans nos narines.
Je suis le chef, je suis le représentant légal, j'ai l'autorité, je suis. Non, je suis celui qui est venu rassembler mon troupeau et je suis venu le nourrir et le conduire jusque dans les parvis éternels. Je ne suis pas venu pour dominer et pour obliger et pour que chacun accepte ce que j'enseigne. Non, je suis venu prêcher la repentance et supplier mes brebis de rejoindre mon troupeau. Vous voulez pas? Il vous laisse. Alors vous êtes perdu. Vous voulez? Il vous accepte. Alors vous êtes retrouvé. Ce titre de bon berger est juste et approprié à sa personne. À nouveau, nous pouvons dire à quoi ressemble Dieu? Une question que nous avons déjà un petit peu touchée dimanche dernier, mais qui va se reposer encore et encore, et jamais nous n'aurons terminé de répondre à cette question. À quoi ressemble Dieu? C'est une question qui reviendra toujours tant que nous sommes dans la chair. Dieu est abstrait. Et Dieu est concret, Dieu est esprit, mais Dieu est physique. Dieu est invisible, mais Dieu est visible. Oui, tout cela c'est Dieu. C'est pourquoi Jean s'était écrié, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du Fils unique venu de la part du Père. Alléluia. Dieu est un fait, et la question ne peut être écartée, et la question ne peut être rejetée. Si tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, tu es le plus malheureux et le plus stupide des hommes. Dieu est une réalité. Jésus nous a révélé Dieu dans sa personne. Il l'a fait de plusieurs façons. Il l'a fait à travers de multiples images qui nous donnent chaque fois un aspect de la personnalité de Dieu.
qui nous révèle une toute petite partie de sa personne, une toute petite partie de sa personne, laquelle est inaccessible à notre petite intelligence dans son entièreté. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans son entièreté, nous, petits vers de terre. Mais la révélation que Jésus nous en donne est merveilleuse. Il a mis Dieu à notre échelle. Et c'est ainsi qu'il nous dit que Dieu est le bon berger par excellence, qui prend soin de ses brebis. Mais oui, il nous l'a dit. Ceci se trouve déjà depuis longtemps dans l'Ancien Testament. David s'est écrié dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Avec lui, pas de guerre. Avec lui, pas de haine. Avec lui, pas de destruction. L'Éternel est mon berger et il va me conduire vers de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, le jour où je dois partir de cette terre, de quelle façon, je ne sais, s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. La maison de l'Éternel, là où il va rassembler son troupeau. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Et ce berger s'est concrétisé dans la personne d'un homme. De celui qui est Dieu et de celui qui est l'homme, homme, le fils de l'homme, est-il dit. Le berger a perdu l'une de ses brebis. Il la cherche, quelle que puisse être la distance, quelles que puissent être les ténèbres, quels que puissent être les dangers. Il la cherche, il vous cherche. C'est la raison pour laquelle il a voulu qu'ici, dans cette place, qui était autrefois un petit restaurant à la limite de la ville de Léopoldville et qu'on a appelé la borne parce que c'était la limite de la ville à partir d'ici, Léopoldville. Mais Dieu avait prévu qu'à cet endroit-là, il y aurait une église et il l'a voulu et il l'a pourvu et il a existé. Pourquoi? Parce qu'il vous cherche. Et il ne va pas obliger qui que ce soit à joindre le troupeau, mais il va parler et il va envoyer ceux qu'il a choisis pour l'aider dans le rassemblement du troupeau, pour appeler les brebis. Les brebis, il sait où elles sont. Ce n'est pas qu'ils ne savent ni ne le sait pas. Il sait où elles sont, en train de errer, sans berger, loin de lui. Et il appelle, et il veut les rassembler. Et il attend que ses brebis répondent à son message. Quel bel exemple de l'action de Dieu, le bon berger en faveur du troupeau qui s'appelle humanité, dispersé par le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober et pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie et la donner en abondance. Nous errons comme des brebis sans berger, chacun suivant sa propre voie. Dans Matthieu 9, 36, il est dit, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais le bon berger les cherche et les ramène une à une avec patience. Dans 1 Pierre 2, 25, il est dit, « Car vous êtes comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous étiez des brebis errantes, sans berger, vivant dans l'anarchie morale, l'anarchie spirituelle, l'anarchie tout court, dans votre vie de famille, dans votre vie personnelle. Vous étiez dans le désordre et l'anarchie, car vous n'aviez point de berger pour vous conduire. Aucun, vous m'entendez, aucun d'entre nous, nous ne sommes capables de nous conduire par nous-mêmes de façon morale, de façon juste, de façon honnête, si nous n'avons pas un modèle à suivre. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Ne dites pas, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Aucun homme n'est véritablement libre. Si tu n'es pas avec Christ, tu es avec Satan. Et l'esclavage de Satan est pire que ce que Christ nous offre. Ce qu'il veut, c'est que nous rentrions dans son troupeau. Et il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Qui est-il? À quoi ressemble-t-il, ce berger? Il est d'abord comme un berger. Il n'est pas un dictateur. Il aime ses brebis. Il aime ses brebis. Il est un berger. Il veut nous conduire à travers les pâturages de cette vie éphémère qui passe, de cette vie passagère. Il connaît notre folie, il connaît notre aveuglement, il connaît notre entêtement, il connaît nos actes qui amènent des conséquences. Et voilà l'inconséquence de tant d'hommes, aussi grands soient-ils. Ils prennent, ils agissent. Ils prennent des actions sans réaliser que ces actions entraînent des conséquences que peut-être eux-mêmes ne vont pas payer, mais que d'autres vont payer, des innocents. Nous voulons toujours manger l'herbe qui est là-bas. C'est pas vrai? Nous trouvons toujours meilleure l'herbe qui est là-bas. Cet autre là-bas qui prêche, il prêche mieux. Cet autre là-bas, il enseigne. Oh, il a l'onction. Cet autre là-bas, il a quelque chose. Et on va manger là-bas. Et on va manger ailleurs. Et on va encore manger ailleurs. On a des indigestions et des empoisonnements. Nous voulons toujours manger l'herbe là-bas au lieu de celle que le berger, le bon berger, nous donne dans son pâturage. Alors on s'égare et la nuit nous surprend. Vous avez une bergerie. Restez fidèles à la bergerie où Dieu vous a placé. C'est votre garantie. Il cherche ses brebis égarées. Que de peine il a avec nous. Il nous cherche. Vous étiez là, vous êtes partis. Comme cette personne qui était autrefois au milieu de nous, que je viens d'apprendre, qui maintenant est dans une espèce de secte. Oh, là c'est mieux, là il y a l'onction. Ah bon? Bientôt vous la verrez venir tout amaigrie et malade. Elle va dire, délivrez-moi. On veut voir de la mousse. On veut voir des choses fabriquées. On veut voir une émotion purement humaine. Nous avons tous, nous sommes tous des êtres émotifs, c'est pas vrai? On cherche l'émotion. Mais on ne veut pas suivre le berger là où il nous conduit. On veut suivre des hommes. Ésaïe 40, verset 11, il est dit, « Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux. Elle les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. » Qui allaite. Qu'est-ce que ceci nous apprend? Sollicitude, amour, sacrifice, patience. Voilà le travail du bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne son temps pour ses brebis. Il s'oublie lui-même pour ses brebis. Il cherche les égarés pour les ramener. Nous croyons à sa puissance. Elle est évidente autour de nous, dans ses œuvres. Nous sommes conscients de sa majesté, de sa sainteté, de sa loi morale gravée, qui est gravée dans nos cœurs. Nous croyons en sa bonté. Elle se voit autour de nous. Et dans sa puissance et dans sa grâce, nous voyons cette nature, malgré les disputes des hommes, malgré leur guerre et leurs paroles, et que sais-je encore, vous voyez les fleurs fleurir. Pas vrai? Vous voyez les arbres donner leurs fruits. Vous voyez les racines de manioc se former dans le sol. Car lui garde toujours la partie de son contrat. Et il l'honore. Sa bonté, elle est là dans la nature. Jésus nous démontre son amour, son courage, qui nous donne la liberté, la vraie liberté du péché et de son esclavage. Cet amour se trouve concentré dans trois mots. Perdu, cherché, trouvé, jusqu'au bout. Il n'abandonne pas et il n'abandonnera jamais. Perdu, rarement Jésus appelle les hommes pécheurs. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, rarement vous trouvez ce mot dans sa bouche. Il les appelle plutôt perdus. Comme les brebis d'un troupeau, perdus. Mais pas toujours par leur propre choix délibéré ou par le vice. Mais perdus par leur faiblesse, perdus par leur aveuglement, perdus parce que trompés, perdu parce que ignorant. C'est pourquoi il envoie ses messagers prêcher son message, afin que les hommes aient la connaissance de la vérité et qu'ils soient retrouvés. Les pharisiens ne se regardaient pas pour perdus, mais ils parlaient des autres comme étant des pécheurs. Mais leur propre justice les marque comme perdus, perdus qui s'ignorent. Beaucoup sont comme cela. Ils sont devenus des propres justes. Ils sont des perdus qui s'ignorent. Et quand on est arrivé à ce stade-là, c'est presque le désespoir sans retour. Pour le bon berger, les 99 passent au deuxième plan. La priorité est mise sur celles qui sont perdues. Leur état n'est pas irrémédiable. Il y a espoir. Il faut les trouver, mais il faut chercher, faire un effort avec de la peine. Un esprit de sacrifice est nécessaire. Personne n'est irrémédiablement perdu. Il faut les chercher. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Il est venu chercher. Toute l'aventure humaine est marquée par les recherches de Dieu, sans même que l'homme en soit conscient. Dieu cherche. La vie de l'homme ici-bas est une préparation à l'éternité, durant laquelle Dieu nous cherche, car nous sommes précieux pour lui. Dieu vous cherche. Vous n'avez pas choisi de venir ici, mais vous êtes venu, vous ne savez pas pourquoi, parce que Dieu vous cherche. Vous êtes ici parce que quelqu'un vous a amené. Vous êtes venu pour lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu vous cherche. Différentes circonstances vous ont amené peut-être ici, ou en contact avec quelqu'un qui vous a apporté la parole de vie, chez vous à la maison. Pourquoi? Parce que Dieu vous cherche. Et vous dites maintenant, aujourd'hui, oui, dès que je suis venu ici, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait répondre au désir de mon âme. Alors, j'ai continué à venir et ma vie a été changée. Pourquoi? Parce que Dieu vous cherche. Ce grand troupeau humain appartient à Dieu et chaque brebis est précieuse à ses yeux. C'est pour cela qu'il cherche jusqu'à ce qu'il trouve 99 brebis. 99! Il les laisse pour chercher celles qui sont perdues. Jésus nous dit là que toutes les forces et l'énergie du ciel sont actives pour trouver une âme perdue. Il cherche, il envoie ses messagers dans des situations impossibles, mais il les envoie avec mission de chercher. Une vie entière peut être dépensée pour le salut d'une seule âme. Nous avons des témoignages dans les siècles passés d'hommes que Dieu a envoyés et qui ont travaillé sans voir une âme, si ce n'est qu'une seule. Ils sont tristes. Ils meurent. Tout le monde pense que leur mission a échoué. Non, ce n'est pas une faillite pour Dieu. C'est un gain. car une âme a été sauvée. Et cette dame, en connaissant Christ, va sauver des milliers. Dieu le savait! Dieu ne jugera pas selon les milliers que tu as gagnés dans ton troupeau. Il jugera selon la fidélité dans la mission qu'il t'a confiée. Car il cherche, et il cherche à travers toi. Chaque membre de l'Église de Jésus-Christ doit chercher. Si Dieu oubliait, il oublierait les bons. Si seulement il y a des bons. S'il se souviendrait, il se souviendra plutôt des perdus, de ceux que les hommes méprisent. Le seul obstacle dans ses efforts de recherche jusqu'à ce qu'il trouve les perdus, c'est la volonté propre de celui qui est perdu et qui ne veut pas reconnaître et le recevoir pour le suivre. Si votre volonté dit non à son appel, il ne pourra rien faire. Voilà le seul obstacle qu'il y a devant lui. Dieu cherche le perdu jusqu'à ce qu'il soit trouvé. Laissez-vous prendre par le bon berger et portez dans la bergerie. Baissons la tête. Seigneur, tu cherches et tu cherches encore. Seigneur, tu cherches et tu appelles encore. Tu veux sauver. Et il y en a plusieurs ici dans cette salle ce matin. Ils sont venus ici parce que c'est toi qui les as amenés, car tu les cherches. Ô Père, je t'en prie, qu'ils écoutent ton appel, l'appel du bon berger. Tu n'es pas un dominateur, tu n'es pas un dictateur. Tu n'obliges personne, mais tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le bon berger vous appelle et il vous attend. Voulez-vous le suivre? Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin dans cette salle qui veulent suivre Jésus? Qui veulent rentrer dans son troupeau? Le bon berger vous appelle. Répondez! Alors levez-vous là où vous êtes, afin que nous puissions voir la décision que vous avez prise. Levez-vous là où vous êtes. Répondez à l'appel du bon berger. Y en a-t-il d'autres encore? N'attendez pas, frères et sœurs. Rentrez dans le troupeau. Il vous appelle. Les jours sont trop mauvais et les jours sont trop graves pour résister à sa voix. Rentrez dans le troupeau, levez-vous là où vous êtes et nous prierons avec vous. Que pouvons-nous faire? Ce n'est pas nous qui pouvons vous sauver. Nous pouvons que vous transmettre le message. Nous vous demandons de vous lever maintenant, simplement pour être témoin et pour prier pour vous, pour vous aider. Nous sommes dans le troupeau, vous n'êtes pas encore dans le troupeau. Il vous appelle, perdu, mais retrouvé. Seigneur mon Dieu, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se lèvent, qui savent qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, sauve-les, Seigneur. Qu'ils rentrent dans ton troupeau. Il y a la joie dans le ciel aujourd'hui pour ces pécheurs qui se sont repentis, qui se lèvent maintenant. Il y a de la joie dans le ciel, Seigneur. Pour ceux qui maintenant veulent confesser ton nom, reçois-les. Et qui que vous soyez, qui écoutez ce message par la radio ou par la télévision, rentrez dans le troupeau. Ne vous laissez pas prendre par l'ennemi et trompé par l'ennemi. Il vous appelle, il vous cherche. Il sait où vous êtes. C'est pour cela que maintenant il vous appelle. Mais il ne peut pas vous obliger. Peut-être que vous êtes une brebis faible. Le bon berger vous arrachera des griffes de l'ennemi, des ronces qui vous retiennent. Il vous portera sur ses épaules. Il vous amènera dans son troupeau et il vous conduira dans de verts pâturages.